Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
C'est confirmé, François Legault, Christian Dubé, Luc Boileau vont faire le point à 14h cet après-midi sur ce déconfinement qui va s'amorcer, notamment avec le sport chez les jeunes, les restaurants. On risque de parler de lieux de culte aussi, d'avoir une séquence là pour la suite avec salles de spectacle, cinéma et autres, et toute cette économie qui espère ouvrir plus vite que plus tard. On va en parler par contre de ce qui se passe dans les hôpitaux, hein, parce qu'on a parlé dans les deux dernières semaines du pire de la cinquième vague, les hôpitaux qui étaient au bout du rouleau. On en est où aujourd'hui alors qu'on va commencer à parler de déconfinement dès lundi prochain? La docteure Laurie Robichaud, qui est urgentologue à l'hôpital général juif et vice-présidente de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Madame Robichaud, bonjour.
Bon matin, Monsieur Foisy.
Comment ça va en ce moment dans les hôpitaux de façon générale au Québec, là? Est-ce que le pic est passé, le pire est derrière nous et ça commence à aller un peu mieux ou c'est encore très difficile?
Ben, je voudrais qu'on est probablement sur un genre de plateau au niveau du pic. On n'est certainement pas encore dans la pente descendante qu'on veut voir. On le voit par les chiffres qu'on voit tous les jours, là, avec des admissions et des sorties qui s'équilibrent à peu près là, dans les derniers jours. Fait que pour la pression pour le système de santé, ben, on est un peu sur le pilote automatique, je vous dirais, en ce moment. Là. Fait que c'est pas une situation qui est idéale. On est encore encore bien occupé par ce gros pic de COVID de cette cinquième vague. Toutefois, je vous dirais que c'est bien possible qu'on aille atteindre le pic à ce moment-ci.
Mais avez-vous l'impression que, là, vous parlez de ce plateau qui semble vouloir descendre à peine un petit peu, là, on risque à deux heures de nous parler de projections de l'INSPQ notamment, où on va nous dire, je présume, là, si on parle de réouverture, que ça va aller mieux, que ça va mieux et que la tendance va se maintenir et que d'ici une semaine, on devrait être en train de baisser. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable du point de vue terrain, là, parce que là, il y a le point de vue statistique dans un bureau où on étudie et il y a point de vue terrain. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Sentez-vous que ce plateau-là, on voit le bout et on voit que ça commence à redescendre bientôt?
On a une tendance, mais c'est tellement difficile. Là, je pense que les derniers mois nous ont prouvé que les prévisions étaient quasi impossibles avec ce virus-là. À l'hôpital, c'est sûr que c'est encore très, très sous pression, mais c'est pas comme si la pression allait être drastiquement diminuer dans le prochain mois. Là. C'est que c'est à un certain moment donné, oui, il va falloir commencer à trouver un équilibre pour essayer que le reste de la vie continue de fonctionner. On peut pas garder les restaurants, les commerces, les étudiants sur pause ou un peu en otage du système de santé. Il va falloir à un certain moment trouver un équilibre. Parce qu'on peut pas... On peut pas non plus, tu sais, la solution n'est pas facile. Puis à un certain moment donné, ben c'est le reste de nos vies, hein. Même nous, dans le système de la santé, beaucoup d'entre nous ont des enfants, font des activités. Ça devient très, très complexe là, de garder tout sur pause en attendant que ça s'améliore, alors qu'on sait que ça va probablement être très long avant que ça finisse par s'améliorer de manière significative.
Mais donc, comment vous vous sentez de savoir que dès lundi, le sport va pouvoir reprendre, on va pouvoir aller au restaurant en petits groupes, les lieux de culte vont ouvrir. Donc, ça veut nécessairement dire un plus grand risque, là.
Tout à fait. Un peu comme l'ouverture des écoles. Ouais. On savait pertinemment qu'avec l'ouverture des écoles, les gens qui retournaient en classe, qui risquaient de rapporter le virus à la maison, comportaient un risque. C'est un peu le même principe. Je pense qu'il faut y aller d'une manière très graduelle pour être capable de quantifier les effets, d'être capable de s'ajuster aux besoins. C'est pas le temps cette fois-ci d'y aller de l'avant et d'ouvrir les robinets à pleine vapeur. Je pense qu'il faut y aller de manière calculée, puis juste regarder les effets. Je pense qu'il faut justement, comme je disais, là, essayer de trouver un peu un équilibre, mais en y allant de manière progressive.
Donc vous êtes quand même d'accord avec une certaine réouverture, là?
Ben, je pense que oui. À un certain moment donné, on n'a pas le choix d'y aller de l'avant et d'essayer de vivre avec le virus. Je pense que beaucoup avant moi l'ont mentionné. À un certain moment donné, ce sont des risques qu'il faut prendre, mais ce sont des risques qui sont calculés. Il faut aussi considérer la population autre. On peut pas continuer à tout mettre sur pause. Vous savez, on en parlait beaucoup de santé mentale, l'éducation des enfants, les autres patients qui sont en pause dans le système de santé. Il faut tranquillement remettre le rouage en marche et continuer d'avancer et essayer de trouver des solutions autres là, pour être capable de coexister avec le virus. Donc oui, à un certain moment donné, moi je crois qu'il faut y aller de l'avant et essayer de trouver des solutions et cet équilibre-là.
À quoi ça ressemble en ce moment, ceux qui sont dans les hôpitaux? Il y a beaucoup de monde qui se disent, est-ce que c'est encore un peu bigarré, des gens vaccinés qui l'ont, qui sont rentrés pour autre chose? Est-ce que c'est beaucoup de non-vaccinés? On est dans une campagne pour aller convaincre les gens de se faire vacciner. Est-ce que il y a des histoires que vous voyez encore des gens qui vous disent « j'aurais donc dû »?
Oui, mais c'est un peu le même portrait que les dernières semaines, le dernier mois. Hein, c'est des patients qui sont non vaccinés, plutôt jeunes, qui sont plutôt malades, hein, qui ont besoin bien souvent d'être hospitalisés de manière prolongée ou encore des soins intensifs. Mais on a aussi une très bonne partie de patients qui, eux, se sont fait vacciner, mais par contre ont des conditions, donc des maladies chroniques qui les mettent à haut risque de développer une maladie plus sévère. Ils sont immunodéprimés, ils sont sur de la chimiothérapie. Et on sait que chez ces patients-là, le vaccin, malgré qu'il est excellent et qu'il probablement prévient beaucoup, beaucoup de conséquences négatives chez ces patients-là, n'empêche pas les gens de l'attraper et quand même de développer des complications. Fait qu'en ce moment, je vous dirais que c'est vraiment les deux portraits de gens qu'on voit là. Encore dans les urgences, mais aussi des patients qui ont besoin d'être hospitalisés.
Il n'y a pas de trois doses ou il n'y a pas beaucoup d'enfants. Est-ce que ça, c'est vraiment, sont pas vraiment là pour la COVID?
Ben oui, il y a des trois doses, évidemment. Mais comme je vous disais, ce sont des patients qui ont des conditions médicales particulières. La vaccination marche magnifiquement bien. Ça nous prévient, comparativement aux vagues précédentes, je vous le dis, c'est un impact qui incroyable le fait d'être vacciné pour protéger des hospitalisations, mais aussi protéger de la maladie sévère. On en voit beaucoup, beaucoup moins là, de ces réactions très, très sévères là, au niveau des poumons qu'on voyait dans les premières vagues. Donc ça, c'est indéniable là, que la vaccination aide. C'est juste que oui, certaines personnes vont pas avoir une protection parfaite, mais bien souvent, ces personnes-là, c'est qu'elles sont plus âgées, immunodéprimées, elles ont un petit quelque chose d'autre là, dans leur problème de santé qui fait que eux, leur système n'est pas capable de faire une réponse immunitaire parfaite comme vous et moi sommes capables de la faire.
Et les enfants?
Ben, les enfants, ça reste encore... oui, il y a certains enfants qui sont très malades. On en a vu au travers le Canada, hein, des enfants qui ont eu recours aux soins intensifs et même qui en sont morts.
Ouais.
Encore une fois, il faut garder en tête que beaucoup de ces enfants-là avaient des problèmes de santé ou encore étaient très, très jeunes. Hein? Les petits bébés, eux, ont aucune vaccination et presque pas de système immunitaire. Donc, pour eux, un virus comme la COVID, qui peut créer une réaction immunitaire inflammatoire très importante, ça peut être catastrophique. Donc, le but aussi, je vous dirais, là, que les jeunes se fassent vacciner, c'est également de protéger nos populations à risque, nos grands-parents, nos enfants, les bébés naissants de nos frères et sœurs, par exemple.
Laurie Robichaud, urgentologue à l'Hôpital Juif, vice-présidente de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.